Bonjour à tous. Évasion romanesque consacrée à la littérature jeunesse s'attarde sur l'un des nombreux ouvrages de Robert Muchamore, entrant dans sa longue série Chérub. Né le lendemain de Noël 1972 à Londres, Robert Muchamore a d'abord été détective privé avant de se lancer à temps plein dans l'écriture pour la jeunesse. Surtout connu pour son œuvre de 17 tomes Chérub, il poursuit avec 7 livres comptant pour la série Anderson's Boys, pendant lesquels il revient sur la création de Chérub pendant la Seconde Guerre mondiale. Des livres d'espionnage sur fond historique qui font fureur depuis 2004. Celui que j'ai lu avec beaucoup de plaisir est l'avant-dernier de la série, Tireur d'élite, sorti en France en 2013. Nous sommes au printemps 1943 dans la France occupée par les nazis, une période où la Gestapo est très active, une période également où la résistance, bien organisée sur l'ensemble du territoire, met à mal l'occupant grâce à de nombreux sabotages. Le réseau permet aussi de temps en temps de libérer l'un des leurs promis à la mort après des heures de torture par les pires bourreaux. C'est entre autres pour une mission de sauvetage d'Edith, une résistante de 14 ans, que Rosie, seule fille de Chérub, un réseau d'agents secrets âgés de 10 à 17 ans et savamment formés par une branche de la Royal Navy, se retrouve parachutée en France. Le sauvetage se passe plutôt bien, mais ses nombreuses blessures infligées par les Allemands se sont infectées et son état nécessite des soins que même Rosie, pourtant formée comme infirmière, ne peut lui prodiguer. Par chance, un petit bonhomme de 10 ans qui déteste les boches autant que les coups de pied aux fesses lui permet de rencontrer le docteur Blanc, une femme au fort caractère qui a vu clair dans cette présence inhabituelle. Sachant qu'elle a affaire à un membre de la résistance, elle lui remet un petit carnet qu'un scientifique français, contraint par les Allemands et qui avait besoin de soins urgents, lui avait confié. Dès que les services secrets britanniques ont authentifié et déchiffré les informations contenues dans le carnet, une vaste opération est mise en place pour libérer les scientifiques de leurs joues et surtout détruire le bunker dans lequel sont élaborées des bombes autoguidées. Après un entraînement intensif, 4 garçons, le capitaine Anderson et le sergent Goldberg, sont parachutés dans une forêt aux abords de Rennes. Des repérages ont lieu, des contretemps apparaissent, mais l'opération est maintenue comme prévu. L'assaut est donné, les gardes allemands descendus, les scientifiques récupérés, mais il est grand temps d'évacuer les lieux. Toutefois, un nouveau problème se présente. « Je me fais trop vieux pour vivre de telles aventures », gémit Ballanger en se baissant pour soulever une énorme sacoche de cuir. « Et toi, mon garçon, quel âge as-tu ? » « Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 100 ans », répondit Marc, la gorge serrée, en s'emparant du bagage du vieillard. « Monsieur, je dois vous avertir. » Vous avez été informé de nos objectifs. Maintenant, vous devez me suivre. Il m'est impossible de laisser des témoins derrière moi. Les chances de survivre au bombardement sont minces, mais je ne peux écarter aucune possibilité. S'il vous plaît, ne me forcez pas à commettre l'irréparable. Je porterai votre valise. Nos camarades parisiens savent que vous n'êtes plus un jeune homme. Ils prendront soin de vous, je vous le promets. Ballanger secoua la tête puis quitta le dortoir d'un pas hésitant. Lorsque Marc le suivit dans le couloir, il vit un physicien barbu nommé Rivet dévaler l'escalier. « Retournez là-haut immédiatement !» gronda Luc. « Bon sang, mais vous déciderez-vous jamais à décamper ? J'ai oublié des notes de la plus haute importance. Bon, dépêchez-vous, nous devons avoir quitté les lieux dans 3 minutes !» Rivet lui adressa un regard apeuré. Il venait de comprendre que sa vie était entre les mains d'un adolescent en proie à une anxiété extrême qui agitait un pistolet automatique à quelques centimètres de son visage. Chargé de son sac à dos et de la sacoche de Ballanger, Marc se dirigea vers l'escalier. Il s'immobilisa à hauteur de la pièce où étaient stockées les bombes. « Tout se passe bien ? » lança-t-il. Luc et Goldberg se tenaient près d'un râtelier. Ils avaient réparti 4 pains de plastique et étaient en train de placer un détonateur sur une bombe Hermann d'une tonne. Si tout se passait comme prévu, l'onde de choc produite par la première frappe de l'US Air Force amorcerait le dispositif. En vérité, le bombardement aérien n'était qu'un leurre censé persuader les Allemands que les chercheurs avaient perdu la vie. Selon toute probabilité, il ne resterait plus de la base qu'un gigantesque cratère au cœur de la forêt. « Ces détonateurs sont mal usinés, » grogna Luc. « Il faut forcer pour les visser dans les charges. Ça va nous prendre des heures. »« Tout va bien. Il n'en reste plus que 2, » dit Goldberg, soucieux de calmer le jeu. « Marc, dis à tout le monde de monter dans le camion. Nous n'en avons plus que pour quelques minutes. »« C'est compris. » Alors qu'il gravissait les ultimes marches menant au garage, Marc entendit Paul hurler. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Pourquoi reste-t-il du monde en bas ?» Marc consulta sa montre et haussa les sourcils. « Pas de panique, dit-il, les bombardiers ne frapperont pas avant que la balise ne soit activée. Mais ça fait 10 minutes qu'elle émet. »« Pardon ? » s'étrangla Marc. « Mais pourquoi tu l'as activée ? Ben, c'est Luc qui m'a dit de... Il t'a dit de l'actionner dans 12 minutes. Merde ! Ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Samuel, Jean et Didier avaient rassemblé les corps des Allemands éliminés lors de la première phase de la mission au rez-de-chaussée. Ainsi, ils seraient pulvérisés lors du bombardement, éliminant toute preuve des tirs dont ils avaient été victimes. La plupart des chercheurs avaient pris place à l'arrière du camion. Andersen était étendu à leurs pieds. Rosie, agenouillée à ses côtés, lui prodiguait les premiers soins. Marc jeta la sacoche de Ballanger dans le véhicule. « Tirez-vous aussi vite que possible, » dit-il à Paul. « Moi, je retourne en bas. Les avions survoleront la base d'une minute à l'autre. « Nom de Dieu, je crois que je les entends, » lâcha Didier. Lors d'un raid aérien, les bombardiers volaient à plus de 200 km/h. Si Didier n'était pas victime d'hallucinations auditives, Marc n'avait plus aucune chance d'alerter Luc et Goldberg avant la frappe, mais il avait cessé de penser rationnellement. Sans l'ombre d'une hésitation, il s'engagea dans l'escalier, menant au deuxième sous-sol. « Luc, Goldberg, évacuez immédiatement ! Trois bombardiers en vue !» cria Didier avant de sauter à l'arrière du camion. « Il faut qu'on se barre !» Sans cesser d'alerter ses coéquipiers, Marc, les mains en appui sur les rampes, franchissait plusieurs mètres à chaque foulée. Des pensées affluaient dans son esprit dans le plus grand désordre. Il manqua une marche et se tordit la cheville, mais l'adrénaline qui déferlait dans ses veines le rendait insensible à la douleur. « La balise a été activée, les avions arrivent » hurla-t-il en déboulant dans l'arsenal. Au même moment, il réalisa que si Didier avait bel et bien aperçu des avions, ils auraient déjà dû frapper le complexe. « Qui ?» rugit Goldberg. « Qui a déclenché la balise ? Elle aurait dû être activée maintenant !»« On a piégé 5 bombes sur 6 !» dit calmement Luc. « Ça devrait être amplement suffisant !»« Alors courez !» Mais l'équipage va-t-il pouvoir fuir avant que les bombardiers ne détruisent le bunker ? Va-t-il échapper aux différents barrages allemands mis en place sur les routes jusqu'à Paris ? Et s'ils atteignent la capitale, pourront-ils rejoindre le réseau de la résistance française et souffler un peu ?
L'actu des bibliothèques.
Notez tout d'abord que jusqu'au 24 décembre, la médiathèque de La Rochette vous propose son calendrier de l'Avent, avec chaque jour une surprise numérique à découvrir. Ne manquez pas ce rendez-vous festif. Sinon, jusqu'à samedi le 21 décembre, la bibliothèque de Gonselin vous propose une exposition immersive avec Plume et compagnie. En vous munissant au préalable d'une tablette, vous entrerez dans l'univers fabuleux des oiseaux. Selon votre âge ou votre envie de découverte ornithologique, vous suivrez plusieurs parcours. Cette exposition interactive, prêtée par la médiathèque départementale de l'Isère, est visible aux heures d'ouverture de celle de Gonselin jusqu'à samedi.